Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, on l'a chanté, c'est la base de notre salut. Il faut comprendre que c'est à cause de cela qu'on est sauvé. Puis aujourd'hui, on va voir que ce que je vais vous parler, c'est un arme, c'est une puissance de Dieu qui sert à nous sauver. C'est Dieu qui a préparé ce plan-là pour qu'on puisse le connaître, ce que je vais vous parler, puis d'en profiter, de pouvoir être touché parce qu'il nous a donné ces choses-là. On va faire une prière, puis après ça, je vais rentrer dans le sujet. Je ne veux pas vendre la mèche tout de suite. On va laisser le Seigneur parler à nos cœurs ce matin. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour le bon temps qu'on a eu dans la louange. Je te remercie pour les frères et sœurs qui sont là. Je te remercie pour l'Église, Seigneur. Ça fait partie de ton plan qu'il y ait une Église, puis qu'on se réunit, puis qu'on puisse trouver en toi, Seigneur, dans la louange, ta présence, un réconfort, une restauration, mais aussi dans ta parole, les éclaircissements, la révélation de ta parole, puis qu'on puisse se solidifier dans le Seigneur, qu'on puisse s'affermir, qu'on puisse devenir ferme et inébranlable dans la foi donnée dans la révélation de la parole de Dieu. Je remets nos ventres entre tes mains, parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va voir, la dernière fois que j'ai prêché sur les armes et la puissance de Dieu à notre disposition, que Dieu avait déjà tout donné ce qui était nécessaire pour qu'on marche dans la victoire, marcher dans la puissance et expérimenter des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je vous parle d'une des armes. Je dirais pas la première ni la dernière dans le milieu, c'est toutes des armes. Elles sont toutes aussi importantes les unes des autres. Mais chacun de nous qui avons expérimenté la nouvelle naissance, cette arme-là, cette puissance-là, est déjà à l'œuvre dans notre vie. Elle est déjà en train d'agir, même si on ne s'est pas rendu compte pourquoi que ça agit ou comment que ça agit. C'est en train d'agir. Puis dans tout cela, il faut apprendre que c'est parce que cette arme-là nous a été donnée, cette puissance de Dieu-là nous a été donnée, c'est par cela qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre manière que d'être sauvé. Une fois qu'on va avoir compris, là, on va savoir que ça a servi à nous sauver, puis ça sert aussi à changer notre vie dans la suite de notre marche chrétienne. Le titre de mon message, c'est « Les armes et la puissance de Dieu à notre disposition », le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ. Vous allez comprendre la puissance du sang de Jésus qui était versé à la croix voilà 2000 ans. Depuis le début de la création, Dieu a essayé de révéler à l'homme qui était pour agréer le plan de ce qu'on offre quelque chose à Dieu qui coûte quelque chose, puis en plus d'offrir quelque chose qui saigne. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi que Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu il voulait atteindre un but dans sa révélation. Quand je vais tout vous donner les idées, vous allez dire, c'est une suite logique que ce qu'on croit en Jésus-Christ qui a versé son sang. C'est lui l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Depuis le début de la création, Dieu a commencé à le montrer, mais c'était subtil. Puis la révélation s'est faite à travers des prophètes puis de la loi. Comme au début de la création, qu'est-ce qu'a fait Dieu pour recouvrir Adam qui se sentait nu? Il a tué un animal, il a pris sa peau, puis il a recouvert de la peau. Pour cacher sa nudité, il a fallu que le sang soit versé. La révélation n'était pas claire au début, mais au fur et à mesure de ses révélations, ça s'éclaircissait. Quand Caïn et Abel sont venus pour offrir un sacrifice, quel sacrifice que Dieu a agréé? Il y en a un qui offrait les fruits de la terre, il offrait ses patates à Dieu, puis l'autre, il a offert un agneau, parce qu'il était berger. Puis déjà, Dieu a montré qu'il agréait le sacrifice des agneaux. Il a accepté le sacrifice d'Abel. Puis il voulait montrer par là, c'est de cette façon-là que je veux être glorifié. L'autre, il était jaloux, il l'a tué. Mais quand même, le point est, Dieu commençait déjà à démontrer qu'il agréait qu'on offre un animal en sacrifice, que son sang soit versé, puis offert à Dieu dans le but que ce soit quelque chose agréable à Dieu. Puis ensuite, dans la suite de l'alliance, dans la suite des temps, Dieu a créé deux alliances. Là, je vais vous parler de la première alliance avec le peuple juif. Puis la première alliance, c'est à travers Moïse, les commandements, la loi. Puis la deuxième alliance, la première alliance était dans le but de nous conduire à la deuxième alliance, dans l'alliance que nous sommes rendus présentement. On voit déjà dans la première alliance, quand que Moïse il a sorti le peuple d'Égypte par la puissance de Dieu, la main de Dieu s'est manifestée, le peuple est sorti, puis là Dieu leur a montré quel était le plan, quelle était la manière qu'il voulait être glorifié. Il a établi la loi, il a enseigné toute la loi à Moïse, Moïse a transmis cette loi-là au peuple. Puis on voit que dans la cérémonie dans laquelle Dieu a scellé l'alliance, sa première alliance avec le peuple d'Israël, puis Dieu il a agréé cette alliance-là, puis de la façon que ça avait été fait, parce que c'était quelque chose que Dieu voulait que ça s'installe. Dieu a scellé l'alliance avec du sang qui était versé, puis c'était tellement puissant quand ça s'est produit que la gloire de Dieu a rempli la tente où ils étaient, puis c'était puissant. Dieu a manifesté sa présence, puis les gens y ont été touchés, puis ils ont compris que Dieu était là-dedans, puis que Dieu agréait l'offrande du sang. Dans le passage, dans Exode 24:8, ça nous dit, « Moïse prit le sang, puis le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. » Les paroles ont été dites, les enseignements ont été donnés, tout était là, mais ça prenait quelque chose qui, comme signait, c'est une signature. L'homme devait offrir quelque chose à Dieu, qu'on signait notre entente ou notre alliance avec Dieu. C'est une alliance que Dieu faisait par le sang qui était versé. Ça prenait du sang qui soit versé pour que l'alliance soit signée de la part des humains. Si les humains ont dit « Oh non, Seigneur, c'est trop cruel, moi j'embarque pas là-dedans, je veux pas », il n'aurait pas eu d'alliance. Fallait que le sang soit versé, puis que ce sang-là soit offert à Dieu en sacrifice, selon l'ancienne alliance, la première alliance. Puis ça dit, voici le sang de l'alliance que Dieu a faite, puis il a pris du sang, puis il a envoyé ça sur tout le peuple. Il a lancé le sang. Puis ça, il est en train de démontrer que Dieu faisait une alliance, mais ça coûtait quelque chose pour avoir cette alliance-là. Ça prenait la mort d'une victime. Puis en plus de ça, selon les écrits, il fallait pas que ça soit n'importe quelle sorte d'animal qui soit offert à Dieu. Il fallait que ça soit un animal sans défaut, sans tache, un animal parfait. Dieu acceptait pas des offrandes qui étaient « Ah, oh, ben cette brebis-là, elle a une patte cassée, je vais l'offrir à Dieu. » Dieu accepte pas des animaux infirmes, malades. Il fallait que tu offres les plus belles. Le premier-né, il fallait que tu offres les plus beaux de tes animaux en sacrifice à Dieu. Puis c'est ça que Dieu agréait. Il voulait nous démontrer que l'alliance coûte quelque chose. Quand un humain, un homme offrait un taureau à Dieu, il ne faut pas penser qu'il offrait un taureau et ça ne coûte rien. Allez voir un cultivateur, demandez-y combien ce qui coûte ces vaches, comment ils tiennent à cœur ces vaches. Ils aiment ces vaches. Un cultivateur ou un berger, il aime ses animaux. S'il en offre une à sacrifice à Dieu et qu'il offre la plus belle, ça y coûte quelque chose. Ou si toi, tu n'es pas un berger, puis tu décides d'en acheter un bœuf, va en acheter un pour le fun, comment que ça coûte un bœuf pour offrir en sacrifice. Ça coûte cher. Ça coûte quelque chose de vouloir faire alliance avec Dieu. L'humain a à débourser, a à démontrer qu'il veut vraiment, puis encore, il faut que ça soit fait de la bonne façon. Si ton cœur n'est pas là, puis tu fais ça juste pour te débarrasser, ça ne sert à rien. Dieu tenait en considération qu'un prix était payé en versant le sang d'une victime. Il fallait que ça coûte quelque chose, puis c'est comme si déjà il démontrait qu'il y avait une dette à payer à quelque part. Parce que les gens, quand ils offraient un sacrifice à Dieu, il fallait qu'ils réalisent que ce sacrifice-là, ils l'offraient à Dieu parce qu'il y avait comme un péché. Fait que ton péché coûte quelque chose, ça coûte la mort d'un animal. Donc, il voulait nous faire réaliser que c'était grave le péché parce que ça l'amenait à quelqu'un, à quelque part, à mourir pour, à ta place. La personne allait offrir son agneau à Dieu pour son péché. Il mettait sa main sur l'animal pendant qu'il était encore vivant. Puis pendant qu'il était vivant, l'animal se faisait égorger, vivant. qu'il sentait tout le feeling de l'animal qui souffrait, puis qui beuglait, qui gémissait, puis que son sang se versait, puis quand il tombait mort, puis là, il devait se dire que c'est à cause de mon péché que cet animal-là est mort, puis qu'il a souffert comme ça. C'était comme si tu ressens encore plus la gravité de ton péché, puis comment que ça coûte quelque chose, mais en plus, ça fait payer quelqu'un à quelque part qui paye pour ton crime. C'est quelque chose quand tu réfléchis à ça. Dans Lévitique 17, 11, ça nous dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang, un animal, là, son âme est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Pour que tu arrives à avoir ton péché qui soit pardonné, il fallait que le sang soit versé, que son âme à cet animal-là meure, puis que son âme qui est à son sang soit versée, pour que toi, tu puisses être pardonné. Il fallait que ça coûte la mort d'un animal. Mais dans tous ces enseignements-là, Dieu voulait nous préparer à la nouvelle alliance. Le sang qui était versé assurait aussi la purification. Pas juste le fait d'être pardonné de nos péchés. Dans l'ancienne alliance, le sang assurait la purification. Le sang sanctifia les ustensiles. Quand que Hébreux 9, 22, il dit, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Puis là, Moïse a pris du sang, il a mis ça sur ses ustensiles pour faire des sacrifices à Dieu. Il a mis du sang sur l'autel. Il a mis du sang sur tout. Il voulait sanctifier les objets de culte de ce temps-là. Puis il a pris du sang, puis il a versé du sang. Il fallait que le sang soit versé pour que tout devienne consacré, que tout devienne saint. C'est de même que ça marchait dans l'ancienne alliance. Il y a un enseignement extraordinaire là-dedans. Le sang était désigné aussi comme une appartenance à Dieu. Quand tu étais sous le sang dans l'ancienne alliance, c'était comme si tu appartenais à Dieu, puis tu as une protection, c'est un signe pour nous éviter la colère. Quand on voit ça dans Exode, au chapitre 12, le verset 12, quand que Moïse est arrivé, il était sorti d'Égypte, puis là il dit, l'ange exterminateur va passer partout dans le camp pour détruire tous ceux que le sang sera pas sur le cadrage de leur porte. Il fallait que les Juifs, s'ils voulaient s'épargner du jugement de Dieu, qu'ils prennent un agneau, comme Dieu les avait dit, qu'ils offrent en sacrifice à Dieu, qu'ils vident de son sang, qu'ils servent du sang, mettent sur le cadrage des portes. Puis quand l'ange exterminateur était passé dans le peuple, tout le pays d'Égypte, toutes les familles qui n'avaient pas le sang sur le cadrage de porte, le premier-né de la famille mourait, comme le premier-né des animaux, le premier-né de tout mourait dans cette famille-là, sauf ceux qui avaient eu la foi en ce que Moïse a déclaré. Ils ont pris du sang, puis qu'ils l'ont mis le sang sur le cadrage. L'ange exterminateur a passé, puis a épargné de la colère et du jugement tous ceux qui étaient sous le sang. Déjà, Dieu est en train d'enseigner pour qu'on comprenne à quoi que ça sert le sang. Si on voit ce passage-là dans Exode 12:12, vous pouvez aller le lire. Le verset 13, il dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang évitait d'être frappé de la colère de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Quand il va voir le sang, puis il passera par-dessus vous, l'ange va passer par-dessus, ça veut, en anglais, c'est « pass over ». En français, c'était traduit par « la Pâque ». C'était la première fois qu'ils ont fait la Pâque, puis c'est la première fois qu'ils ont fait la Pâque, puis la Pâque, le sang qui était versé, c'était pour que l'ange passe par-dessus. C'est tout biblique, ces choses-là. Dans tout ça, là, de voir que ça coûte quelque chose pour être pardonné, ça coûte quelque chose pour être consacré, purifié et déclaré saint, ça coûte quelque chose pour être sous la protection de Dieu puis éviter le jugement. C'est à ça la loi de l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui étaient offerts. Puis, écoutez bien cela, il est venu un temps où ce que Dieu ne prenait plus plaisir au sang des taureaux. Dans l'Ancien Testament, Isaïe 1, 11, ça nous dit, Dieu était comme fâché de voir comment que ça marchait, comment que les gens faisaient ça tout croche. Il dit, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Dieu est en train déjà de démontrer qu'il y en avait là de toute la manière que les gens faisaient le sacrifice tout croche. Parce qu'il avait donné des manières de faire les choses. Puis en plus, il s'attendait à ce que le cœur des gens soit là-dedans. Les gens faisaient ça comme d'une manière... s'en débarrasser, puis on fait ça, puis on... tout est, puis en réalité, on offrait, il offrait des brebis malades, chétives, des brebis infirmes. Puis c'est comme s'il réalisait plus que c'était grave, le cas. Quand tu présentes de quoi à Dieu, tu veux être pardonné, il fallait que tu offres de quoi de parfait. Puis Dieu commençait à m'envoyer par-dessus la tête. Puis là, on voit dans Hébreu, dans là, je vais vite parce que je ne veux pas m'éterniser sur l'Ancien Testament. Je vais arriver dans la Nouvelle Alliance. Dans Hébreu, au chapitre 8, le verset 7, pour ceux qui prennent des notes, ça nous dit que la première alliance devait être abolie à cause de son inutilité. Hébreu 8, 7, ça dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si les gens qui pratiquaient la première alliance, ils auraient pu devenir saints, purs, consacrés, puis avec un zèle à vouloir servir l'Éternel en offrant des sacrifices d'animaux, Dieu n'aurait pas changé cela. Si vraiment les gens auraient pu être vraiment pardonnés de leurs péchés et pouvoir avoir la vie éternelle, parce que ça nous disait dans la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il fallait qu'il mette tout en pratique. Mais la minute qu'il péchait d'une façon ou d'une autre, il tombait sa condamnation, puis tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une seule personne humaine qui a réussi à accomplir toute cette loi-là pour gagner son ciel. Il fallait que Dieu change le système. C'est un système, c'est une alliance. Il fallait que Dieu change cette alliance-là parce que c'était pas la méthode réelle. Dieu savait, il voulait juste démontrer aux hommes comment ils sont incapables de pratiquer la justice, la sainteté, la pureté. C'est incapable. Tout le monde tombe dans le péché, veut pas. Il voulait juste nous qu'on apprenne dans tout cela comment est-ce qu'on est incapable de se sauver par nous-mêmes. Y a-t-il un qui pense qu'il a accompli toute la parole de Dieu sans péché? La Bible nous dit, si quelqu'un il se pense comme ça, c'est un menteur, puis la vérité n'est point en lui. On a tous péché d'une façon ou d'une autre. Il y a une seule personne qui n'a pas commis de péché, c'est Jésus-Christ. Ces sacrifices-là, la Bible nous dit dans Hébreux 7, 18, ces sacrifices-là ne rendaient personne parfait. Dans ce passage-là, Hébreux 7, 18, ça nous dit, « Ainsi, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » C'est fort, là. Dieu l'avait donné, mais il savait que c'était inutile. C'était juste dans le but de démontrer qu'on n'était pas capable de le faire. « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et c'est une introduction à une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'était pas complètement inutile parce qu'elle a servi à nous montrer qu'on n'était pas capable de le faire, mais ça nous a introduit à une nouvelle alliance. Une seule chose nous a rendu accessible à tout ce que nous pouvons goûter aujourd'hui dans le Seigneur. C'est le sang de Jésus. C'est une puissance de Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Là, je vais vous expliquer la nouvelle alliance. On voit que l'ancienne était là, puis ça servait à des bons points, mais il n'y a personne qui a atteint quoi que ce soit avec ça. Voyant l'inutilité de la loi, Jésus-Christ a dit à son Père, mais il ne s'appelait pas encore Jésus-Christ, il était dans l'éternité avec son Père, quand il a dit à son Père, c'est pourquoi, ça c'est Hébreu 10, 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Fait qu'il était rendu sur la terre, puis il était capable de dire, tu n'as pas agréé tout ce système de sacrifice-là, puis là, tu m'as formé un corps. Tu as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Puis dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Fallait que Dieu lui-même décide de venir faire quelque chose que Dieu le Père va agréer. Dieu le Fils est venu en un corps, puis c'est Dieu le Père qui l'a mis dans un corps, mais Jésus-Christ existait auprès du Père, mais il est venu dans un corps pour venir faire la volonté du Père. Pour venir ouvrir une porte que la loi n'avait pas été capable d'ouvrir. Il est venu pour faire la volonté de Dieu, faire quelque chose que Dieu le Père va trouver agréable. Parce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu n'a pas agréé cela. Il n'a pas trouvé que c'était efficace, bon, puis que ça servait à sauver quelqu'un, parce qu'il n'y a personne qui a réussi. Puis quand Jésus était sur la terre et il parlait avec ses disciples, il est en train de donner cette ouverture à ses disciples, là, dans Luc 22-20, quand il a pris la Sainte Cène avec ses disciples. Là, il dit, il prit la coupe après le souper, puis il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Il n'était pas encore répandu son sang, il n'était pas encore mort sur la croix, il était en train de parler avec ses disciples, puis là, il lui parle d'une coupe remplie de vin, puis là, il leur en donne, puis il dit là, c'est une nouvelle alliance. Il est en train de renverser l'ancienne alliance, mais il y avait juste lui qui pouvait renverser la loi, renverser toute la structure de cette loi-là qui existait depuis 1500 ans. Jésus avait l'autorité et le pouvoir de dire, maintenant, il y a une nouvelle alliance qui se fait entre Dieu et les hommes, c'est à travers de mon sang. Il a payé le prix en versant son sang. Mourant sur la croix, c'est une chose, mais en versant son sang pour nous racheter, pour payer. Il a versé son sang, il est entré dans le ciel avec son sang, puis il le présenta à son Père. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ça, c'est le ciel. Il l'a traversé. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il a traversé le ciel, il est rentré dans l'autre création, puis il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu un rachat pour tout le monde. Il a payé la dette des péchés par son sang, puis lui-même est allé mener ce sang-là sur l'autel, dans le lieu très saint, dans le ciel. Un lieu où Dieu est loué, adoré, glorifié, c'est le lieu de la présence de Dieu. Jésus-Christ, après sa mort, y est monté, est allé offrir son sang en sacrifice pour obtenir une rédemption. Pour ceux qui ne savent pas, le mot rédempteur, ça veut dire c'est un rachat. Quand tu payes pour quelqu'un qui est esclave, pour lui donner sa liberté. Tu payes le prix que ça coûte pour pouvoir donner à l'esclave sa liberté. C'est le prix de rachat. C'est ça la rédemption. Jésus-Christ a payé le rachat pour que tout le monde puisse devenir libre du péché. Wow! Là, on a de quoi de puissant qui commence à être annoncé là. C'est ce qu'il y a de plus puissant qui existe. Parce qu'on a passé par cela, puis ça nous a donné d'être des rachetés. On va le voir dans tout cela ensuite. Quels sont les avantages du sang de Jésus-Christ? Bonne question. En premier, là, qu'il faut comprendre, c'est que Dieu il a réconcilié les humains avec lui-même par le sang de Jésus-Christ. Il a donné une possibilité que les humains puissent être réconciliés. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 1:20. Il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu fallait qu'il fasse ce que ça prenait pour pouvoir que tout le monde puisse être comme d'avoir une possibilité de parler à Dieu puis de connecter avec Dieu. Parce que l'ensemble de l'humanité était sous le jugement de Dieu à cause qu'on a tous péché, on est tous des pécheurs, puis il n'y a pas un qui méritait rien. La colère de Dieu était sur l'ensemble de l'humanité. Dieu est en colère, voit les humains, comment est-ce qu'ils se rebellent contre lui, comment est-ce qu'ils désobéissent à ses commandements. Ils sont là, les commandements, puis sont éternels, ces commandements, puis Dieu veut qu'on les obéisse. Puis les gens qui se rebellent, on a tous tombé au moins une fois dans le péché, ça, Je suis extrêmement généreux en disant une fois. Je dirais même une fois par jour. Je suis encore généreux si je dis une fois par jour. Une fois par heure. En réalité, là, si tu n'es pas en train d'adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, du matin jusqu'au soir, tous les jours de ta vie, puis si tu n'as pas aimé ton prochain comme toi-même, tous les jours de ta vie, tu étais tout le temps dans le péché. Parce que c'est ça qui est le but ultime, le résumé des 10 commandements. Fallait arriver à être comme ça. Y a-t-il un non-pécheur ici? Non. On a besoin, tout le monde a besoin du sang de Jésus. C'est par le sang qui a été versé à la croix qui nous donne une possibilité d'être réconciliés. Si on est réconciliés, c'est parce qu'on n'était pas ensemble en conciliation. On n'était pas unis. On a besoin de revenir unis. On était tous des séparés. Tu viens au monde séparé à cause d'Adam et Ève. On vient au monde homme animal. On a besoin de recevoir l'Esprit, naître de nouveau pour pouvoir voir et entrer dans le royaume. On a besoin de passer par la réconciliation, mais pour y arriver, pour recevoir Dieu le Père, faut que tu passes par Jésus. Nul ne va aller au Père que par Jésus. Faut que tu passes par Jésus parce que c'est là que tu passes par le sang pour être purifié qui va te donner un accès à être réconcilié avec Dieu le Père. Premier avantage que ça nous donne, j'en ai parlé un petit peu, c'est à cause du sang de Jésus, nous avons la rédemption, le rachat, d'être libéré. La rédemption veut dire c'est une libération qui est effectuée suite au paiement d'une rançon. Ça coûte quelque chose, il fallait que tu payes quelque chose pour être libéré de la conséquence de tes péchés. Mais quand quelqu'un te rachète puis qu'il paye cette dette-là, il t'a racheté. Il est ton rédempteur. Il est celui qui a payé. On a une dette envers lui. Exactement. On y doit tout. Si t'es venu à Jésus-Christ, là, il t'a racheté, puis c'est pleinement efficace. Le sang de Jésus te rachète. Il paye ta dette de tes péchés. C'est fort. Mais sans Jésus, t'as rien. T'es encore sous la colère. Il a payé ce qu'il fallait pour nous racheter. Puis il nous a remis notre dette. Laquelle dette? Pas la dette qu'on se doit à lui. Il nous a remis la dette de nos péchés. On a une facture. Puis on va arriver au ciel, là. Puis il va y avoir une facture. Tous nos péchés sont écrits dessus. Puis si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel,
il va manquer de papier.
Quand tu as accepté Jésus, c'est marqué payé par Jésus. Le sang de Jésus te purifie. Mais si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, c'est marqué à payer. C'est qui va payer? Il n'y a pas d'autre qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il y a juste Jésus-Christ. C'est faut que tu payes. Hey, puis il faut comprendre, là, c'est sérieux. Les péchés, la liste de péchés nous empêche d'entrer dans le paradis. Faut que tu passes par le sang de Jésus pour pouvoir être purifié. Là, tu peux rentrer, puis là, c'est le seul moyen, en fin de compte. Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est ce que je vous disais. On était rachetés de nos péchés par son sang. Puis on a la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand quelqu'un paye pour toi, tu y dois ce montant-là. Vrai ou faux? Si Pierre il emmène un objet au prêt sur gage, puis il doit 200$ sur un objet, puis moi, je veux être son rédempteur, je m'en vais là, puis je paye le 200 à sa place, puis il peut reprendre son objet. Donc, je suis son rédempteur qui rachète sa dette puis qui obtient son objet. Sauf qu'il me doit 200. Il me doit 200, c'est moi qui l'ai payé le 200. Sauf
si...
Mais je suis pas le rédempteur, heureusement. Regardez ce qu'il y a de spécial dans ce verset-là, dans Éphésiens 1:7. En lui, nous avons le rachat, la rédemption par son sang, et la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, rémission des péchés? Il nous le remet. Il dit qu'un je te le donne, tu me dois rien. J'ai payé, c'est payé. Toute ta dette de tes péchés, c'est remis. J'ai plus l'intention de la ramener. Merci, Seigneur.
Laquelle?
Mais ça, on va le voir dans la suite.
Comme tu as dit tout à l'heure, Pierre, si tu passes l'argent, mais il n'y a pas ça que tu le dois à toi. Bien là, quand il nous paye et il nous le donne, il ne faut pas qu'on en fasse pour y redonner.
Non, tu n'es pas obligé d'y remettre. Une fois qu'il t'a remis tes dettes de péché, tu ne dois plus rien à Dieu. Sauf que l'amour. L'amour, l'attachement, elle dit, à celui à qui on pardonne peu, aime peu, à celui qu'on pardonne beaucoup, aime beaucoup, notre élan d'aimer Dieu, Seigneur, t'es donc bien grand, t'es donc bien bon de payer ma dette de mes péchés, puis je sais que ça va, une fois que je suis lavé de mes péchés, je vais pouvoir rentrer au ciel. Merci, Seigneur! On est reconnaissant, c'est une reconnaissance éternelle, fait qu'on va louer Dieu aujourd'hui, pas parce que je suis obligé de le louer, c'est parce que je l'aime, puis je suis content d'être sauvé, je suis content d'aller au ciel, puis je vais le faire parce qu'il n'y a pas de plus grand ami que lui. Hey, c'est quelque chose, ça a coûté cher au Seigneur de mourir. C'était pas facile. Ouais. L'Église entière, l'ensemble des gens qui sont sur la terre, qui sont sauvés, ont été rachetés, ils ont été acquis. Ça a coûté quelque chose à Dieu pour racheter toute cette gang-là. Dans Actes 20-28, ça nous dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. » L'Église du Seigneur est acquise par son propre sang. Ça a coûté quelque chose, puis Dieu trouve ça grave. Chaque brebis est importante, puis on doit prendre soin des brebis. On doit faire attention aux brebis. On doit parler de façon à ce qu'on encourage les brebis à persévérer dans la foi. Si on est dur, puis on frappe, puis on les détruit, on les blesse, puis on est en train de travailler contre Dieu, parce que Dieu, lui, ça lui a coûté cher, puis il tient, il a à cœur chacune de ses brebis, il les aime, chacune de ses brebis. S'il y en a une qui s'égare, là, bien, il va laisser 99-là, va aller chercher l'autre qui s'est égaré, puis elle cause plus de joie, cette brebis-là qui revient, que les autres qui étaient là. Dieu veut pas n'en perdre aucune de ses brebis. Il veut qu'on reste dans la foi, puis qu'on reste parmi ceux qui sont acquis, puis qu'on profite de tout ce bon temps-là qu'on a présentement, en attendant la vraie vie permanente. Le rachat, c'est un rachat éternel qu'on a vu, une rédemption éternelle, c'est un rachat pour l'éternité, mais qu'on soit rentré dans l'éternité, là on va pouvoir se lâcher lousse. On a accompli ce qu'on avait à faire. Il nous a rachetés, nous appartenions à l'ennemi, il avait un droit légal de nous retenir, maintenant que nous sommes rachetés, nous lui appartenons à lui, à Jésus-Christ, en tant que deux droits de rachat sur nous. Il y a deux façons dont Dieu devrait être le boss de notre vie. Premièrement, parce qu'il nous a créés. En tant que créateur, c'était lui. Il est le propriétaire de tout. C'était lui. Nos vies lui appartiennent. Il nous a prêté la vie, il nous a donné comme une grâce de vie, puis à cause qu'il est le créateur, c'est le propriétaire. Je devrais automatiquement, par défaut, en commençant, avoir un cœur à vouloir lui remercier puis de vivre pour lui. Mais ensuite, à cause que on était perdus, on était pécheurs, on était des condamnés, on était en direction de l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, on était en direction de la perdition éternelle, que là, il est venu payer ce que ça coûtait pour nous sortir de là, puis nous emmener, puis il nous pardonne, puis il nous accepte dans sa famille. Mais à cause de son rachat, il y a encore un doublement... Il y a doublement le droit de régner sur nous puis d'exiger quoi que ce soit de nous. Nous nous devons à Dieu en tant que créateur, mais en tant que rachat. Quelqu'un qui a reçu, comme je disais tantôt, il a reçu un cadeau, j'y paye sa dette, puis que j'y remets sa dette, comme qu'on voit dans la parabole de celui qui avait été remis sa dette, puis après ça, il est allé voir son chum, puis il est allé, paye ce que tu me dois, puis là, l'autre, il n'était pas content. Mais là, Le roi, il a dit, reviens ici, toi, je t'avais remis ta dette, puis t'es allé faire du trouble à ton frère qui devait un petit peu d'argent. Tu me dois encore ta dette. Même s'il a remis, faut pas oublier que c'est lui qui est le boss. Faut faire attention de la manière qu'on gère notre vie, puis d'être miséricordieux parce qu'on l'aura obtenu, miséricorde, nous aussi. Faut pardonner, faut, tu sais, faut être sur le côté de pas être sur le côté du méchant qui accable les autres, mais faut être du côté de celui qui a reçu une grâce, puis il vit dans la grâce pour les autres. On appartenait à l'ennemi. L'ennemi avait le droit de faire ce qu'il voulait avec nous, mais à cause qu'il nous a rachetés, qu'il a payé le prix, il nous a sortis des ténèbres, puis il nous a emmenés dans le royaume de la lumière. Quand on parle des ténèbres, on parle pas juste de la noirceur. Il nous a sortis du royaume des ténèbres. On était dans le royaume du diable. Nous avions comme roi le diable. Le diable régnait sur nous. Nous étions des fils du diable. Puis quand on s'est converti, on a vu le royaume de Dieu, on est de nouveau, mais là, il nous sort du royaume du diable. Il nous arrache de ce royaume-là, puis il nous transporte dans son royaume. Puis là, il dit, maintenant, c'est à moi, cette brebis-là. C'est à moi. Puis vous allez voir dans les autres choses, il a mis son sceau sur notre front. Propriété privée de Dieu. On appartient à Dieu, puis il a mis sur nous son sceau, qui est le Saint-Esprit, comme quoi qu'on appartient à Dieu. Le diable, il n'a plus le droit de rien faire. Il est obligé de demander la permission pour faire quelque chose. 1 Pierre 1,18, ça dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Ça, c'est pas juste de l'or puis de l'argent, là. C'est le Créateur fait homme qui a versé son sang pour qu'on puisse être racheté. Une autre chose que ça nous donne, la purification. Être racheté, c'est une chose. Mais ça nous rend pur aussi, vous allez voir. Il nous purifie notre conscience par son sang. Dans Hébreux 9,14, ça nous dit cela. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, y purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Quand tu viens à Jésus, il paye la dette de tes péchés, il t'a racheté, mais il faut qu'il fasse plus que ça avec toi. Il faut qu'il te nettoie. Il faut qu'il te lave. Payer la dette face à la justice, c'est une chose. Après ça, il faut qu'il fasse le nettoyage de toutes tes saletés que tu as après toi. Puis ça, c'est tes péchés. Par son sang, ça paye la dette pour le rachat, mais ça purifie aussi pour te laver de tous tes péchés. Hébreux 9,14, ça nous dit cela. Il veut nous purifier dans notre conscience. Puis continue à nous purifier de nos péchés, puis de nous délivrer de nos péchés. On voit ça dans 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus continue à nous purifier, à nous rendre purs, à nous laver de nos péchés. Tout le long de notre vie, on va en refaire d'autres. Nous avons besoin de marcher dans la lumière afin que le sang de Jésus continue à nous purifier. Parce que c'est sûr qu'on était tous des pécheurs avant. On accepte Jésus. Il nous sort du royaume. Il nous lave. Nous sommes pardonnés. Puis commence son lavage. Puis le lendemain que j'ai accepté Jésus, j'en refais un autre. Puis après ça, j'en refais un autre. Puis j'en ai refait beaucoup d'autres. J'ai besoin d'être purifié aussi des autres péchés. Parce que je suis venu à zéro à partir du moment que j'ai accepté. Mais le jour 1 après ma conversion, le jour 2 après ma conversion, j'en fais d'autres péchés. Et j'ai besoin d'être pardonné aussi des autres péchés. Puis le critère de base qu'il faut comprendre, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai inventé ça. Pour que le sang de Jésus continue à nous purifier par la suite, je dois marcher dans la lumière. Je dois marcher dans la lumière pour que je puisse avoir le sang qui me purifie. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? marcher en lui, marcher en communion avec lui, marcher à jour comme la lumière éclairée, marcher dans la lumière, hein, c'est le contraire de ça, c'est je fais encore des choses à la cachette, j'ose pas le dire à Dieu que je fais d'autres péchés. Tu sais, le gars qui est menteur, puis il ment, mais il avoue pas qu'il est menteur. Il demande pas à Dieu de l'aide pour sortir du mensonge. Il confesse pas, donc il marche dans les ténèbres. C'est au moment que tu commences à confesser les choses, que là, tu mets ça en lumière. Clic, clic. Ah, là, Dieu voit ça, t'es dans la lumière, puis là, Dieu te purifie. J'allais voir, parce que dans ce verset-là, que je vous dis de marcher dans la lumière, deux versets plus loin, pour être dans la lumière, c'est à condition que nous confessions pour maintenir notre communion. Ça dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Les chrétiens qui veulent pas confesser leurs péchés ne marchent pas dans la lumière, ils sont encore dans les ténèbres. Puis si un chrétien dit « j'en ai pas de péché », il est menteur, puis la vérité n'est pas en lui. Puis s'il dit s'il sait qu'il y en a, mais il veut pas les avouer, t'es pas obligé d'aller le dire à tout le monde dans l'église, ton péché, là. Mais au moins, le dire à Dieu. Puis des fois, ça peut arriver que t'as reçu une conséquence à cause de ton péché, Dieu te serre à la vis. Mais il te dit, va voir l'ancien, puis demande à l'ancien qui prie pour toi en me toignant d'huile. Puis là, il dit, si t'as fait des péchés, confesse-les. Puis là, il va prier pour toi, puis tu vas être guéri. Il y a des fois qu'il faut que tu le confesses à un humain, allant voir l'ancien, puis demander à l'ancien de prier pour toi, pour que tu sois guéri. Mais si tu gardes ça chez vous, tu le seras pas. Tu continues à subir les conséquences, puis la vis est serrée, puis des fois, ça fait mal des vis. Mais tout ça pour vous dire, marchons à jour avec le Seigneur. Vous faites de quoi de pas correct? Ça donne rien de nier, puis de dire, non, 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 je le fais pas. Confessez vos choses, puis Dieu vous pardonne. Des fois, les humains ne pardonnent pas, mais Dieu pardonne, puis c'est important qu'on marche à jour avec le Seigneur. Puis le sang de Jésus continue à nous purifier tant qu'on les confesse. Tu recommets la même faute, mettons, tu es un colérique, puis ça arrive souvent que tu te mets en colère, puis tu dis des choses qui peuvent faire de la peine. Mais faut-tu le confesser à tous les fois? On a toutes des choses dans nos gènes, dans notre nature, dans nos caractéristiques humaines qui sont du péché, parce que le péché est en nous. On reçoit des délivrances de plusieurs affaires, mais on en pratique encore des choses qui vont déplaire à Dieu. Mais si tu le fais 50 fois dans la semaine, demande pardon 50 fois, puis quand un frère vient te demander pardon jusqu'à 70 fois, 100 fois dans une journée, faut que tu y pardonnes à chaque fois. Faut être à jour avec nos frères et sœurs. On fait des fautes avec les autres. Faut être capable de demander pardon à Dieu et aux humains. Puis faut être capable de pardonner à celui qui nous a fait quelque chose. Puis là, on y remet la dette. Comme moi, j'ai été remis des dettes de la part de Dieu. Il m'a pardonné. Faut que je sois capable de pardonner aux autres. C'est ça, la marche dans la lumière. Vouloir marcher dans sa parole, confesser mes péchés pour finalement finir un jour à m'en sortir. Sinon, je garde les péchés, je reste dans les ténèbres, puis je m'en sors pas. Puis mes péchés sont pas pardonnés, puis ça nuit à ma communion avec Dieu. Il vient un temps quand un frère pratique le péché, il est rendu dans les ténèbres, que ça nous dit dans Jean. Si on pratique des péchés volontairement sans les confesser, nous marchons dans les ténèbres et la vérité n'est pas en nous. Par là, nous savons que nous sommes en lui si nous gardons ses commandements. C'est ça qu'il dit dans Jean. C'est puissant, ces versets-là. J'ai une autre étude que je suis en train de préparer sur les commandements de Dieu, de Jésus-Christ. Il va y avoir une petite étude de 11 messages. Ça va être bon. C'est fort. C'est fort. C'est bon. C'est parce qu'on y pense pas. Là. C'est là. Gloire à Dieu. J'achève. Non, là, j'en ai deux de fait. Il me reste juste mon dernier parcours. Manque-t-il un bout? Regardez bien, dans l'Apocalypse 7, 14, là, ça nous parle Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais, là, il parle d'une multitude qui est devant le trône. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, puis ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Wow! Notre robe, pour qu'elle soit blanche devant Dieu, ben, ça a de l'air que les gars vont porter des robes. Mais je m'étais pas. C'est la première fois que je le remarque. J'espère que c'est pas leur robe au sens propre. Une tunique, peut-être. Ils ont lavé leur robe, puis ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. J'ai déjà entendu ça, le principe de quelqu'un qui se sentait sale, puis il se frottait avec une brosse pour essayer. Puis là, ça devient une maladie, ça, là. Puis là, il frotte, puis il se blesse tellement qu'il ne se sent pas net en dedans, puis là, il frotte. Mais écoutez, il y a un seul savon qui purifie de tout péché, puis c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose pour nous purifier. Tu veux blanchir ta robe pour être plus blanc que neige? On a un chant là-dessus. Blanc, plus blanc que neige. Bon, mais si je voulais être plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Hallelujah. À cause du sang de Jésus, il nous déclare saints. À partir du moment qu'on se convertit, le sang de Jésus a été mis sur nous, puis nous sommes devenus des saints. Saints, qui veut dire sacrés. Hey, c'est quelque chose. Nous sommes des êtres sacrés. Dieu est saint. Dieu est sacré. L'ensemble de l'humanité est profane. Mais quand tu deviens à être son disciple, tu deviens à être un sacré, un pur devant Dieu, un saint. Il nous dit ça, il nous a sanctifiés, puis il nous déclare saint, qui veut dire comme consacré. Consacré vient du mot sacré. Con, ça veut dire ensemble, sacré ensemble. On devient participant de tout ce que Dieu nous donne, puis on est en contact avec, en communion avec. Puis ça, t'es rendu un saint. Sans cela, tu l'as pas, ce contact-là. Puis c'est par son sang. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, il a souffert hors de la porte. Pour nous sanctifier, il fallait qu'il verse son sang. Pour qu'on soit appelé un peuple sacré, un peuple saint, un peuple qui appartient à Dieu, il fallait qu'il paye de son sang. Cela nous a donné de faire partie de son royaume, du royaume de la lumière. Dans Apocalypse 1:5, je n'ai pas obligé d'aller lire, je vais vous le lire vitement. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est à cause de son sang qu'il nous a purifiés, nous a délivrés de nos péchés, puis il a fait de nous un royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes ses sacrificateurs, nous sommes des êtres sacrés. Une autre chose que nous obtenons en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes, et cela nous évite la colère. Même chose que dans le temps de Moïse, quand il a mis le sang à ses cordages de porte, ça a évité le jugement et la colère. Dans Romains 5, 9, il dit, à combien plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère à venir. Dieu a un jugement sur la terre et le jugement du grand trône blanc qui s'en vient. Faut pas être sur le bord des condamnés. Parce que ça sera pas drôle. L'état ardent de feu et de soufre, c'est des pleurs, des grincements de dents, jour et nuit, au siècle des siècles. Faut mourir, pardonner. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Le sang de Christ nous dégage de la loi de Moïse et de ses conséquences aussi. J'achève deux, trois petits versets. Il nous délivre de tout ce que la loi de Moïse nous tenait lié. Dans Colossiens 2, 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Savez-vous c'est quoi cet acte-là? C'est pas la loi. La loi, c'est une chose. L'acte, c'est... Mettons que tu veux faire passer quelqu'un en cour, il envoie un supplénat, puis l'accusation est dans le supplénat. T'as fait ça, là, il t'explique dans ton papier toutes tes transgressions. C'est à cause de cela que tu passes en jugement. La loi est à là, ça change rien, la loi est à là. Mais l'acte, c'est ton supplénat. C'est toute ta liste de tes péchés, tout ce que tu devais rendre compte. C'est ça qui a été crucifié avec Christ. Puis que le sang de Jésus nous libère, puis efface cet acte-là. Nous ne serons pas jugés pour les péchés que nous avons commis parce que nous avons été purifiés par le sang de Jésus. C'est extraordinaire. Dans Romains 8:1, ça nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton Seigneur, t'es pardonné. T'as plus de condamnation pour toi. Demeure dans la foi jusqu'à la fin parce que c'est le seul moyen pour être pardonné. Si tu lâches, mais t'es plus en Jésus-Christ, t'as cherché d'autres choses, une autre religion, un autre moyen, ou t'as décidé de plus t'occuper de ça, puis de plus vouloir être sauvé, mais je regrette, il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé, il reste juste l'attente d'un feu qui dévorera les rebelles, que nous dit Hébreux. Un autre dernier point que nous avons à cause du sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste par le sang de Jésus. Alléluia! Le lieu saint, très saint que Jésus-Christ avait porté son sang, c'est le paradis, le ciel. C'est là que toute la vie éternelle va se dérouler. Puis on a une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On a une libre entrée dans le sanctuaire. Entrée libre. Tu sais, quand tu vas au cinéma, puis j'ai un film, c'est marqué. C'est gratis. Entrée libre, c'est que tu peux rentrer gratuitement. Alors, regarde pas ta vie comment ce qu'elle est. Dieu a déjà tout accompli pour tout effacer ça, tout purifier ça, te laver de tout ça, te revêtir sa justice, puis te donner tout ce qu'il te faut pour que tu puisses rentrer. Puis ça, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses. Par le sang de Jésus, alléluia. C'est-tu pas extraordinaire tout ce qu'on peut avoir dans le sang de Jésus-Christ? Puis c'est une nouvelle route qu'il a inaugurée. Elle n'existait pas encore, cette route-là. C'est le Messie qui a payé pour qu'on puisse l'avoir. Courbons notre tête, on va prier le Seigneur. Père, je te remercie pour la révélation de ta parole, pour toutes tes belles paroles qu'il y a là-dedans, qui nous démontrent la puissance du sang de Jésus-Christ qui était versé à la croix il y a 2000 ans, que par ce sacrifice-là de ton Fils bien-aimé, du Dieu éternel qui s'est fait homme, tu as versé ton sang pour que je puisse être pardonné, lavé, purifié, sanctifié, épargné de la colère, me donner une occasion, une ouverture gratuite, une entrée libre d'entrer dans la vie éternelle, d'entrer dans le ciel. Merci, Seigneur, de nous révéler cela. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, pour les promesses qui sont là, puis que c'est les plus grandes et plus précieuses promesses qui nous donnent d'être participants de tout ce que tu veux nous donner. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, mais je te prie pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils l'acceptent comme leur sauveur. Je te demande d'ouvrir les yeux, leur faire comprendre, pour qu'ils puissent faire le choix de t'accepter puis de te suivre parce que tu es le seul sauveur venu dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. Puis je veux faire une prière pour ceux qui, pour vous aider à prier, pour donner votre vie au Seigneur. J'encourage à faire cette prière-là avec moi. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus parce que je ne mérite rien. Je suis pécheur et privé de toutes tes bénédictions. mais je crois que Jésus-Christ est venu v'là 2000 ans. Il est venu payer la dette de mes péchés par son sang. Je l'accepte maintenant comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit afin qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Sache que si vous avez fait cette prière-là, puis vous êtes sincère, Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné vos péchés, vous a purifié. Il y a une nouvelle vie qui commence, puis tu as une marche en communion avec lui. Gardez la foi jusqu'à la fin, c'est la seule manière que vous allez pouvoir être sauvés.